C'est bon?
Samedi 6 avril prochain aura lieu à l'espace Henri Emmanuelli de Mugron, spectacle Son et Lumière sur l'abbé Joseph Borde. Pourriez-vous, monsieur Dalator, vous présenter et nous indiquer le nombre d'acteurs et de participants à ce spectacle qui retrace la vie d'une grande personnalité de l'histoire des Landes.
Bonjour, je suis Luc Dalator.
Je suis le responsable de la communication au niveau de la paroisse Notre-Dame de Chalosse. Nous avons eu l'idée de ce spectacle à la suite d'un premier spectacle que nous avions réalisé avec la troupe des Baladins de l'Évangile. Et nous avions joué un spectacle qui s'appelait Passion, qui est d'ailleurs largement diffusé dans le diocèse. À l'issue de ce spectacle, nous nous sommes dit avec l'abbé Gétain qu'il serait bon, peut-être, de faire, dans l'esprit des baladins, c'est-à-dire évangélisé par le spectacle, monter quelque chose nous-mêmes. Et donc, nous sommes tombés sur une figure diocésaine qui n'est autre que l'abbé Borde. Et ce projet, nous l'avons mené depuis à peu près un an et demi. Voilà. Donc, on arrive quasiment au bout, au terme, voilà, bientôt. Qui sera donc le 6 avril prochain à l'espace Henri Emmanuelli de Mugron. Nous donnerons deux représentations, la première à 17h et la deuxième à 21h. Alors le nombre d'acteurs, nous sommes aujourd'hui à peu près 85 acteurs. Dans les coulisses, il y a également du monde parce qu'il n'y a pas que les acteurs, il faut des costumes, il faut toute la partie technique, accessoires, voilà. Donc ça fait à peu près une vingtaine de personnes de plus, donc un peu plus de 100 personnes gravitent autour de ce projet. Et l'espace Henri Emmanuelli peut accueillir 430 personnes. Donc si vous additionnez, eh bien on arrivera à peu près à 900 personnes, parce que bon, il y en a toujours un peu plus ou moins qui rentrent, sur ces représentations que nous espérons le plus réussies possible.
Seront-elles payantes, ces représentations ?
Alors, nous sommes également partis sur un projet...
Vous avez appuyé sur le bouton. Oh, il a tout arrêté, malheureux.
C'est pas vrai.
Si. Si, ça marche pas. Il a tout arrêté.
Ah,
il a appuyé sur le bouton. Je suis désolée, mais... Ce spectacle a été créé et monté exclusivement par des bénévoles. Les deux séances prévues à 17 et 21h le 6 avril seront-elles payantes, monsieur Dalator ?
Eh bien, ces deux séances seront gratuites. Nous sommes partis sur cette possibilité parce que tout simplement, c'était compliqué de déjà faire un tarif, quel tarif, on n'avait aucune base, donc on voulait faire quelque chose de que les gens puissent y accéder. Et puis, libre à eux, si à la sortie ils sont enchantés, et je l'espère, en tout cas, eh bien, ils pourront toujours laisser leur obol en sortant. Et il faut dire aussi que si nous avons quelques bénéfices, ce n'est pas le but recherché, mais s'il y en a, ils seront destinés aux jeunes de notre paroisse. Et l'abbé Borde en aurait été vraiment enchanté, parce que lui qui aimait par-dessus tout la jeunesse, ils seront destinés à l'aumônerie des jeunes qui vont sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle tous les ans, ou vont en pèlerinage aussi à Paris avec notre abbé, le père Gétain. Voilà.
Et pour nos éditeurs qui ne seraient pas forcément landais, pouvez-vous nous parler de manière plus précise de l'abbé Borde et de son implication et de ses engagements ici, dans les Landes ?
Oui, avec plaisir. Alors, l'abbé Borde est né d'abord à Tartas, c'est un pur landais, de famille assez modeste. Son père était droguiste, voilà, il n'y avait rien d'exceptionnel là-dedans. Il est issu d'une famille de 6 enfants. Il est le seul fils. Et son père l'aurait destiné plus, dit-on, à la tauromachie que à la prêtrise. Mais bon, voilà, le Seigneur en a l'a appelé sur d'autres chemins. Et tout jeune, d'ailleurs, il imitait déjà les prêtres à faire des messes avec ses sœurs. Voilà. Donc l'abbé Borde était déjà très dirigé vers l'Église très jeune. Donc naturellement, ses parents l'ont mis au séminaire à Aire-sur-l'Adour, et puis voilà, il est devenu prêtre. Tout d'abord à la Madeleine, à Mont-de-Marsan, et puis une mission toute particulière sur la commune de Fargues, qui n'avait plus de prêtre depuis des années, qui avait été un peu chassé par cette commune, où l'église était à l'abandon, et les paroissiens aussi, voilà. Donc il est arrivé là, la valise à la main, et puis tout le monde peut-être le voyait pas arriver d'un très bon œil, mais toujours est-il que quand il en est parti, tout le monde pleurait. Donc c'est que quand même, quelque part, il s'est passé quelque chose. Et il a créé des mouvements aussi avec la jeunesse dans ce village. Ensuite, il a réintégré Mont-de-Marsan, et il y a eu après l'épisode, évidemment, de la guerre, la Première Guerre mondiale, où il a été un grand acteur du 34e régiment d'infanterie. Ensuite, nous aurons l'épisode entre les deux guerres, où on verra que l'abbé Borde a énormément fait pour le département. Il a fait pour le département, il a fait pour son diocèse et pour sa patrie. Vous voyez, il n'est pas resté sans rien faire. Et puis, il y a l'épisode de la Seconde Guerre mondiale, où là, on verra qu'il aurait pu échapper au sacrifice suprême, et on verra qu'il n'a pas voulu. Il est allé jusqu'au bout, et il est allé jusqu'au sacrifice pour sa patrie et pour son diocèse et son évêque. Voilà la vie de l'abbé Borde, qui n'est pas mince. On ne peut pas la résumer en 2 heures de temps sur un spectacle, il faudrait beaucoup plus que ça. Donc on a choisi 9 tableaux, 9 scènes importantes de sa vie que nous allons relater à travers un son et lumière, avec des costumes aussi. Et tout est fait maison. Donc c'est quand même la partie des bénévoles est très participative et tout à leur honneur, parce que on n'avait jamais fait ça. On s'est lancé dans l'aventure. Et puis à chaque répétition, voilà, il y a plein de choses nouvelles qui viennent, qui font que ça fédère plein de relations, plein de bonnes choses, voilà. Et je pense que l'abbé Borde serait heureux de voir ça, et j'espère qu'il est heureux de le voir.
Pouvez-vous nous parler aussi de ses distinctions ? Il a été blessé, il a reçu la Légion d'honneur, la Croix de guerre et des citations. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu plus tout ça ?
Alors brièvement, parce que raconter la vie de l'abbé Borde à la guerre, elle est connue à travers les écrits qu'on a eus, voilà, quelques écrits qu'il a laissés, notamment. Alors il a été blessé 3 fois, hein, voilà, il a été blessé 3 fois, gravement d'ailleurs, et il s'en est remis, grâce à Dieu. Mais je crois que ce qui l'a le plus blessé, ce n'est pas tant les blessures des fusils ou des mortiers qui tombaient, mais je pense que c'est de voir tout ce qui mourait près de lui et qui devait accompagner ou même donner un peu d'espoir. Mais quel espoir y avait-il dans cette guerre ? Y avait-il une issue vraiment ? Je rappelle que on le dit à un moment donné dans la scène, lorsque la guerre est déclarée, les hommes disent à leurs femmes « Nous reviendrons pour la moisson ». La moisson a duré plus de 4 ans quand même, donc avec des millions de morts. Donc voilà, l'abbé Borde a été d'abord infirmier dans cette guerre, et puis après il a été l'aumônier du 34e régiment d'infanterie de Mont-de-Marsan. Alors, au début c'était un aumônier non pas titulaire, mais plutôt voilà, l'aumônier tout droit, tout naturel, hein, qu'on a déclaré. Et puis après il est devenu vraiment l'aumônier titulaire, et beaucoup allaient le voir et lui confier certainement beaucoup de choses, parce qu'il sentait bien que la guerre était très difficile et beaucoup n'en reviendraient pas. Donc il avait des lettres à faire passer à des familles. Il était le papa là-dedans, vous savez. Je pense que c'était... Et il les faisait prier. Ça aussi, c'est très très important. Il avait même créé au sein de ces moments très difficiles et ô combien éprouvants, il avait réussi à créer un foyer qui s'appelait le foyer du soldat et où on pouvait un peu voilà, penser à autre chose qu'à la guerre. On le verra aussi dans des scènes d'un tableau où on voit justement ces personnes, autant les infirmières que les soldats, eh bien un petit peu changer d'air, comme on dit, voilà, penser un peu à autre chose dans un moment si douloureux que peut-être une guerre.
Vous nous confirmez bien qu'il y aura dans ce spectacle quelques scènes remémorant cette terrible épreuve qu'il a vécue, enfin ces terribles épreuves du conflit.
Oui, alors il y aura deux tableaux qui seront essentiellement destinés à la Première Guerre mondiale. Ces deux tableaux assez forts, parce que c'est des tableaux poignants, où il faut faire passer de l'émotion, il faut retracer ce qui s'est vraiment passé. Et puis, il y aura un autre tableau qui sera eh bien, sur plus la déportation, puisqu'il a été, comme vous le savez, lors de la Deuxième Guerre, déporté vers Gaggenau, où ça sera son issue ultime, et son sacrifice suprême. Voilà. Donc là, oui, il y aura un autre moment fort également. Mais il n'y a pas que des moments émouvants et tristes. Il y a également des moments joyeux. C'est ça qui fait un spectacle, qu'il soit réussi ou pas. Il faut quand même, dans une vie d'homme ou de femme, il y a des moments de bonheur, des moments d'épreuve, des moments tristes. Donc, c'est tout ce panel qu'on a voulu faire ressortir sur la Bébordes, avec des moments joyeux, notamment son ordination, qui est complètement retracée dans la première scène, un premier tableau, qui est tout à fait magnifique, avec les costumes superbes et très très bien interprétés par celui qui joue la Bébordes, qui n'est autre que Marc Conturier, et qui joue vraiment à perfection. Et nous sommes heureux d'avoir eu une personne qui vient de l'extérieur. Vous voyez, il y a des personnes qui sont venues se greffer, qui viennent d'autres paroisses, et en cela, c'est une réussite pour nous, parce que on découvre plein de gens qu'on ne connaissait pas, et certainement que eux aussi ne nous connaissaient pas. Eh bien, on voit d'autres choses, on vit des moments qui sont assez forts, et comme je le disais tout à l'heure, et j'espère que ça continuera. Voilà.
Pouvez-vous nous dire quelles actions ou œuvres l'abbé Bordes a fondées au cours de son ministère ?
Oui, alors là, l'abbé Bordes a été le vicaire général du diocèse sous Monseigneur Mathieu, qui était l'évêque à l'époque. Donc l'abbé Bordes était beaucoup tourné vers la jeunesse, beaucoup, beaucoup. Et la jeunesse l'adorait. Il savait leur parler. Il savait comment il fallait prendre ces jeunes, qui d'ailleurs après la Première Guerre étaient complètement dans le chaos. La France c'était un chaos, quoi. Hein. Donc il a fallu amener d'autres choses dans le département. Et par le biais de l'agriculture, il avait connu, je pense pendant la guerre, des personnes qui sont venues lors de rassemblements importants dans les Landes, notamment à Cagnotte, qui sont venues expliquer qu'il était possible de faire une autre agriculture aussi dans le département des Landes. Et beaucoup de choses ont démarré là, et on le doit à l'abbé Bordes. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais c'est vrai. Donc il a créé ces mouvements qui étaient des mouvements de jeunesse d'action catholique, la JAC, la JOC, le mouvement de jeunesse d'ouvriers chrétiens. Et tout cela a commencé à prendre petit à petit, et ça a fédéré. Au rassemblement de Cagnotte, il y avait plus de 1200 personnes, par exemple. Certaines sont venues juste l'écouter, mais après, ça a quand même... on a retrouvé ces gens-là dans ces mouvements. Donc, vous voyez, ça a fait son chemin, et tant mieux. Également, une chose importante, l'abbé Bordes a créé tout ce qui est patronage au sein du département. Si on a des patrons aujourd'hui qui sont encore en exergue, il y a la Violette à Turin, la JAD à Dax, nous avons l'Étoile à Mauloise, l'Espoir Mugronais, bien sûr. Moi, j'étais président de l'Avenir Copénois à Copen. Voilà, tout cela était des patronages. Et ces patronages, c'était... mettre les jeunes par le sport et les amener aussi vers allier l'esprit chrétien à l'esprit sportif. Voilà. Et l'abbé Borde est le grand initiateur de tout cela. Et d'ailleurs, il faut rendre hommage aussi aux autres prêtres qui ont continué après l'abbé Borde. Par exemple, vous aviez à Mou l'abbé La Maison qui a énormément fait pour les patronages, l'abbé La Lague. Voilà. Il y a d'autres prêtres qui, dans son sillage, ont répondu aussi à l'appel de l'abbé Borde.
Très actif durant la Première Guerre mondiale où il s'y distinguait, l'abbé Borde a repris des activités patriotiques dès la Deuxième Guerre mondiale. En 1943, il s'engage dans le réseau de résistance Alliance. Est-ce qu'il est possible de nous donner quelques détails de son engagement personnel et de ce qu'il a fédéré à ce moment-là autour de lui ?
Oui, l'abbé Borde... Là-dessus, il était assez secret. D'ailleurs, vous saviez que dans ces temps-là, ils avaient des noms de code. Voilà. Lui, son nom, c'était Saint-Père. On allait voir Saint-Père. Il avait intégré le réseau qui s'appelle de résistance Alliance, qui était beaucoup basé sur Bordeaux. Et évidemment, c'était... Le but était d'amener quelque chose pour aider tous ces réseaux de résistance qui œuvraient dans la région. Et l'abbé Borde a, de par sa fonction et de par son esprit de fédérer au niveau de la jeunesse, eh bien, était, je suppose, très suivi, très écouté. Mais on a peu d'écrits. Moi, personnellement, je n'ai pas encore là-dessus assez, peut-être, planché sur ce moment-là. Mais toujours est-il que il a perdu, d'ailleurs, des amis à lui dans ces moments de résistance. Voilà. Et lui-même, ça lui a coûté d'être arrêté à Dax. Et ensuite amené vers le fort du Ha à Bordeaux, et puis après voilà vers les camps de concentration où malheureusement on connaît l'issue finale. L'abbé Borde a été fusillé en 1944, juste avant la libération. D'ailleurs voilà il en avait la possibilité d'échapper à cela, mais il est allé jusqu'au bout, pour ses convictions, pour être avec ses frères, voilà, et il a payé de sa vie cette période-là, et lorsqu'il en est revenu, puisqu'il avait demandé à être enterré à l'église de Gamard, où il est resté 8 ans, voilà, il a également beaucoup fait à Gamard, il a créé plein de choses sur le clocher gamardais, comme on dit. Donc il a demandé à son évêque et au maire de l'époque d'être dans l'église de Gamard, à la tombe du soldat, à l'entrée de l'église, voilà, il repose là. Et pour que les gens qui, en rentrant dans cette église, puissent se rappeler, se souvenir et prier pour lui, et par là même prier pour tous ceux qui ont connu ces deux guerres. Voilà.
De son nom de résistant, vous me confirmez qu'il s'appelait le Saint-Père ?
À ce qu'on en sait, oui, son nom de résistant était Saint-Père. Voilà, on allait chez Saint-Père. Voilà, lorsque les résistants se donnaient des rendez-vous pour écouter les radios, par exemple, parce que tout le monde n'avait pas la radio. Lui, heureusement, en avait une. Donc, on se donnait rendez-vous chez Saint-Père. Donc, Saint-Père était effectivement l'abbé Joseph Borde. Voilà. Et d'ailleurs, ça lui a valu d'être arrêté là, à ce moment-là, lors d'une rencontre avec des résistants qui l'a fait fuir par derrière. Et puis lui, la Gestapo l'a arrêté. Hein, voilà. Et puis après, voilà, l'issue, on la connaît.
Il est donc mort en martyr.
Oui, je pense qu'il est mort en martyr. C'est pas ouvertement dit, c'est pas peut-être reconnu en tant que tel, mais comment ne pas être autrement mort en martyr quand on a vécu ce qu'il a vécu et de la façon dont il l'a vécu? Il faut être honnête. Après, je pense que c'est compliqué aussi pour reconnaître tout cela parce qu'il a quand même peut-être fait rentrer des personnes dans les réseaux, des jeunes, des voilà. Je ne sais pas. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants, mais je suis convaincu qu'il est mort en martyr. Ça, c'est sûr que là, il y a aucun doute.
Il est dit de lui aussi qu'avant de mourir, il a écrit « Je meurs pour ma patrie, mon évêque, mon diocèse ». Pouvez-vous nous révéler quelques informations sur les scènes du spectacle qui font apparaître cet amour que l'abbé Borde avait pour Dieu et sa patrie, la France?
Alors oui, il est écrit d'ailleurs, hein, à Gamarde, je meurs pour ma patrie, mon diocèse et mon évêque, voilà, victime de la charité, voilà. Et alors les scènes qui vont évoquer ça sur les différents tableaux, on peut dire qu'il y en a une particulièrement parce que quand vous voyez un prêtre comme l'abbé Borde, aumônier du 34e mairie, qui va sur des scènes de guerre en tant que soldat. Donc il est la patrie. Et il vient donner l'absolution ou réconforter des jeunes qui vont mourir dans ses bras. Là, c'est le prêtre. Donc on a à la fois l'homme d'église et l'homme de la patrie qui est au service de son pays dans une guerre complètement effroyable. Ça, nous le verrons notamment dans une scène. Oui, ça, c'est certain. C'est un moment poignant. Et c'est un moment, d'ailleurs, où lui-même est atteint par un obus et sauvé in extremis par d'autres personnes qui le transportent à côté, sur une civière, vous verrez. Bon, on relate cela, mais les moments les plus forts, je pense qu'il les a vécus là. Ça lui est resté. C'est pas pour rien que dans la Deuxième Guerre, il s'est engagé dans le réseau Alliance. Et il savait très bien que la France avait encore besoin de lui. Donc c'était à la fois la France et à la fois au service de son diocèse et de son évêque. Mais oui, il avait les deux dans son cœur.
Merci, Monsieur Dalator, de nous avoir parlé aussi bien de ce père, Joseph Borde. On a l'impression de le connaître. Il fait partie de la famille maintenant. Dites-moi, pour terminer, comment faire pour réserver une place à ce spectacle?
Alors, pour réserver une place, c'est pas compliqué. D'ailleurs, il est conseillé, il est même obligatoire, je dirais, de réserver une place, parce qu'on sait qu'il y aura beaucoup de monde. Donc, vous avez donc deux séances, la première à 17 h, la deuxième à 21 h. Donc, vous avez la possibilité de réserver soit à l'une, soit à l'autre, par le biais d'abord d'Internet. Donc, vous avez le site du diocèse qui peut nous ramener vers nous via tous les liens qu'il peut y avoir. Vous avez le site de notre paroisse où vous pouvez vous inscrire directement, qui est paroisse NDC, tout attaché, paroisse NDC, @sfr.fr. Donc ce site, vous allez trouver sur le lien pour vous inscrire. Vous laissez vos noms, le nombre de personnes qui sont intéressées et quelle séance vous désirez. Voilà, on vous répondra, ne vous inquiétez pas. Ensuite, vous avez tout simplement un numéro de téléphone. Eh bien là, c'est pas difficile, hein. Voilà, il est ici. Donc c'est le 05 58 98 93 69. Voilà, vous tomberez sur une dame qui n'est autre que la trésorière, qui est Madame Coudroy, voilà, qui prendra vos réservations. Et surtout, si c'est le répondeur, laissez votre message, elle vous rappellera, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc des moyens, ce n'est pas compliqué. Vous avez également les permanences de notre paroisse qui sont les jeudis et samedi matin, donc de 10 h à midi. qui, par contre, je peux vous donner le numéro de téléphone, mais bon, il vaut mieux réserver ici, mais je vous le donne quand même. C'est le 05 58 97 70 28. Voilà, vous pouvez également aller sur place, pourquoi pas, si vous êtes de passage à Mugron. La permanence, elle est au 20 rue Jean d'Arcet. Voilà, à Mugron, il y a de multiples possibilités. N'hésitez pas à le faire parce que c'est vivement conseillé pour une question de place. C'est surtout ça. Quand vous aurez réservé, on vous attribuera un numéro et ce numéro vous sera remis lorsque vous viendrez au spectacle pour accéder à vos places. Parce que s'il y a 430 places, on ne peut pas rentrer 500 personnes. Voilà, c'est bien pour ça.
Donc, rendez-vous à tous, samedi 6 avril 2019 à Mugron. Bonne journée à tous. Marc Conturi, bonjour. Vous incarnez l'abbé Borde. Comment avez-vous abordé ce rôle et connaissiez-vous cette haute figure ecclésiastique des Landes?
Alors, on peut parler au présent, hein, parce que c'est en cours de préparation, et même j'ai pas, disons, un grand recul par rapport à ce travail en cours, qui remonte à quelques mois seulement. Je ne connaissais pas du tout le père Borde avant de prendre connaissance de la pièce. Et voilà, il est évident que en dehors du travail technique et des répétitions à faire, eh bien j'essaie de connaître un peu mieux sa vie. Et bah, il se trouve que l'association de Gamard a fait d'excellentes recherches sur sa vie. Il a quand même laissé pas mal de discours, beaucoup de photographies, de témoignages. Et ça n'est finalement que depuis pas très longtemps que je m'intéresse vraiment à sa personne et à ses actions, évidemment. Et j'avais évidemment aucune connaissance alors, non seulement du personnage, mais de son héroïsme, et je dirais même de sa sainteté, parce que c'est quand même plus qu'un héros, à mon sens, c'est un saint, qui n'est pas canonisé ou pas encore, mais qui, j'espère, le sera un jour. Et je dis pas seulement ça pour la gloire de l'Église des Landes, mais parce que réellement, il répond à la représentation que personnellement je me fais de la sainteté. J'aurais des petites choses à donner pour justifier ça. C'est-à-dire que justement les témoignages que j'ai pu lire, hein, puisque je suis en train de le découvrir. Disons, indique qu'il avait un enthousiasme comme en ont souvent les saints dans l'histoire, c'est-à-dire on peut penser à Saint François, Saint Thérèse d'Avila, ce sont des fondateurs, des hommes d'action et qui sont dans le monde. Hein, c'était quand même un prêtre séculier, hein, c'était pas un moine. Donc il était dans le monde, très proche des laïcs, et jusque dans les tranchées, et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il était en première ligne toujours. Donc c'est à la fois évidemment un homme de prière et un homme d'action, et toujours avec cet enthousiasme. Hein, c'est pas, disons, quelqu'un de triste. Qu'est-ce qui m'y fait penser? Alors, premièrement, il y a un témoignage intéressant. Sur sa nomination de sous-diacre en 1903, il écrit une très belle lettre à sa sœur qui, déjà, alors il est tout jeune, il a 23 ans, hein, et qui annonce, eh bien, une vie engagée à fond. Et pourtant, l'époque est très difficile puisque c'est, disons, la Troisième République avec des lois de séparation de l'Église et de l'État très dures. Et il semble dire, ben, tant mieux, hein, tant mieux, puisque ce sera l'occasion de faire encore plus de bien. Alors je lis les lignes en question, là, qui sont en plus très belles. Quoi qu'il en soit, armons-nous de courage, il écrit ça à sa sœur, de force et de joie. Soyons heureux. Demain, ce sera peut-être la misère. Tant mieux. Qui sait si le jour où mon évêque me lancera dans l'arène, les églises ne seront pas fermées et les couvents déserts. Ce jour-là sera encore un beau jour, jour de gloire et de combat. nous lutterons ensemble. Je sens des frissons de bonheur secouer mes membres et faire trembler ma plume. Si l'on te chasse du couvent, alors il s'adresse encore à sa sœur, si l'on te chasse du couvent, c'était quand même ce genre de questions qui se posaient, hein, tu viendras combattre et lutter avec moi. Il y aura encore du bien, beaucoup de bien à faire. Il y aura de beaux jours à vivre sur la terre de France. Il faut lutter, vois-tu. On s'est trop hâté, me disait, etc. Bon, la suite est plus circonstancielle, mais enfin, vous voyez, cet enthousiasme est vraiment émouvant. Il est à la fois naïf et à la fois annonciateur, hein, de ce qu'il fera en effet. Et ce serait peut-être un peu long, et je suis encore une fois en train de découvrir tout ça, mais il est volontaire pour être en première ligne avec les poilus au front. Et plus tard, avec les résistants, le réseau Alliance, et qui lui coûtera la vie, hein, puisqu'il meurt dans les camps. Alors, je ne sais plus si c'est Buchenwald ou Gaggenau. Enfin, là, je. Oui, c'est ça. Mais il a fait tout cela avec le plus grand consentement et un certain esprit, je dirais, de martyr. Hein. Martyr au sens de témoin, mais martyr au sens de. De dévouement jusqu'à la mort. Et je ne crois pas qu'il y ait là quelque chose, disons, de doloriste ou de morbide, hein, mais plutôt. Alors, la phrase là qui me vient, c'est une phrase que je cite quelquefois devant les élèves. C'est une phrase du maréchal Delattre de Tassigny, et je pense que la vie du père Borde, il l'illustre bien. C'est la phrase suivante qui dit « Les raisons de vivre sont des raisons de mourir pour sauver ce qui donne un sens à la vie. » Et je pense que le père Borde a plus que répondu à cet appel-là, et dès la guerre de 14, il avait l'intuition qu'il devait mourir au combat. Voilà, donc c'est de l'héroïsme, et je dirais que c'est aussi de la sainteté, puisque il y a, disons, un témoignage de foi et pas simplement de combat pour la justice. J'aime beaucoup d'ailleurs la phrase qu'on a gardée là sur sa pierre tombale, hein, qui est une phrase de lui évidemment. Je meurs victime de ma charité, hein. Je meurs pour ma patrie, pour mon diocèse, pour mon évêque. Donc il a combattu pour la foi, et pas simplement pour des raisons politiques, évidemment. Alors maintenant, je ne sais pas si ça répond à tout.
Mais si, mais on continue. Petite question suivante. Pour vous, quel sentiment personnel en tirez-vous de cette expérience ?
Alors là, c'est difficile. Moi, je dirais Déjà, je tiens à redire, hein, que c'est un travail qui, disons, remonte à quelques mois seulement, et alors qui n'est pas, disons, aussi difficile, hein, que s'il s'agissait d'une pièce de théâtre proprement dite, hein, puisque le texte est enregistré, donc ça relève plutôt du mime, hein, et ça, il faut qu'effectivement vos auditeurs le sachent, mais c'est intéressant tout de même. C'est une autre sorte de performance. Et je dirais, en un mot, ce que ça m'inspire personnellement, ça m'incite à l'humilité, hein, puisque évidemment, on se dit, et moi, par rapport à ça, qu'est-ce que. Mais j'avais eu cette impression déjà. Avec un travail qu'on avait fait avec Gérard Lavessière, à qui je dois beaucoup, sur Saint-François d'Assise. Quand on fréquente comme ça, et le théâtre est une sorte de fréquentation, puisqu'il faut incarner un personnage réel ou imaginaire, mais disons que, oui, on est forcé à l'humilité, voilà. Donc moi, d'ailleurs, je suis un peu gêné de parler de moi, parce qu'à côté de, vous voyez, à côté du père Borde, je fais pas le figure, évidemment. Mais je pense que quand même, il faut pas se dégonfler, et qu'il faut le faire avec joie. Hein. Monsieur Luc, hein, qui a écrit le texte, hein, de ce spectacle, eh bien, m'a dit dès le départ que c'était un ami de la jeunesse, qu'il exprimait la joie. J'ai vu des témoignages que j'aurais du mal à retrouver là, mais de l'évêque Monseigneur Mathieu lui-même, hein, qui dit que il n'avait pas le profil clérical, hein, c'est-à-dire il n'était pas solennel, et même quand il est devenu chanoine, on hésitait à l'appeler chanoine parce qu'il n'avait pas, disons, cet aspect officiel, hein, je l'imagine personnellement, hein, comme quelqu'un de très avenant, aimant plaisanter, actif, très actif, peut-être même nerveux, hein, mais effectivement pas guindé, si vous voulez. Hein. Et c'est ce qui le rend sympathique. Hein.
Vous, Père Jetin, responsable spirituel de ce beau spectacle, qu'avez-vous envie de rajouter à tout ce qui a déjà été dit ?
Bonjour Catherine, donc voilà, d'abord nous sommes à moins d'un mois du spectacle, puisqu'il aura lieu le 6 avril prochain à Mugron, à la salle Henri Emmanueli, comme cela a déjà été dit. Donc je me réjouis beaucoup de l'enthousiasme que suscite ce projet. Ça fait quand même plus d'un an que notre paroisse le prépare. C'est un beau projet, voilà, qui a suscité beaucoup d'enthousiasme et qui a fait appel aussi à de nombreuses personnes, à leurs compétences diverses. Voilà. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est que notre projet de spectacle est d'abord se situe dans une perspective d'évangélisation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'évangélisation ? C'est trouver le moyen de transmettre l'évangile, la vie du Christ, de la communiquer. Pour cela, il y a plusieurs portes d'entrée pour amener les gens à vivre de la vie même du Christ, par la liturgie, par la prière. Avant cela, il y a des portes d'entrée. Alors, ça peut être l'art en général, la musique ou la peinture, le sport, par le biais d'un patronage. Et puis, le spectacle, pourquoi pas. Le spectacle dans le but de... pour nous, en tout cas, sur la paroisse Notre-Dame de Chalosse, qui est une petite paroisse rurale, a créé un mouvement et qui fédère des personnes très diverses. Voilà. Donc, tous les participants de ce spectacle, à la fois les acteurs, les figurants, dirons-nous, qui sont plus de 80, et toutes les personnes qui participent dans les équipes de... pour confectionner les costumes, pour les équipes techniques, la communication, etc. Bon, donc fédérer tout ce monde, et chacun à sa place, selon ses compétences, ses capacités, ses qualités, ses goûts. Voilà, tout le monde n'a pas forcément envie d'être sur les planches, mais préfère être dans l'ombre, voilà, pour les accessoires, pour les costumes. Bon, il y a donc plein de manières de participer à ce spectacle, et le but étant de progresser dans sa foi, ou bien peut-être de connaître le Christ, de le découvrir à travers la vie d'un prêtre. Voilà. Alors, en l'occurrence, un prêtre, je dirais un chrétien, mais l'abbé Borde était un prêtre de notre diocèse. Alors, ce que nous voulons montrer à travers les 9 scènes, les 9 tableaux de ce beau spectacle Son et Lumière, c'est que l'abbé Joseph Borde, landais, figure locale, figure marquante du clergé landais de la première moitié du XXe siècle, a été profondément prêtre, c'est-à-dire a vécu pleinement son sacerdoce, dans toutes les missions qui lui ont été confiées. Alors on va voir bien sûr que sa foi, sa vocation a pris naissance au sein d'une famille chrétienne, puisqu'il avait des parents profondément chrétiens, des sœurs qui sont devenues religieuses, et lui a senti très jeune l'appel au sacerdoce. Donc ensuite, à partir de son ordination qui a été célébrée en 1905 ou 1904, l'abbé Borde a été successivement au service de la jeunesse. Il a été en paroisse, il a été aumônier d'un pensionnat de jeunes filles à Mont-de-Marsan, curé de Fargues, dans un contexte très complexe, très compliqué, de fortes tensions. On l'a vu capable de pacifier une population. Et puis on le voit aussi pendant la Première Guerre mondiale, donc il était pleinement prêtre auprès des soldats pour leur donner la joie, le courage d'avancer et d'affronter ces moments terribles avec espérance et foi. On le voit bien sûr en train d'accompagner des mourants, de consoler des jeunes soldats français complètement désespérés. Et puis on le voit aussi cherchant à mettre de la joie là au milieu, puisqu'il a créé, comme cela a été dit précédemment, il avait créé le foyer du soldat. Bon, on le voit en paroisse, notamment à Gamarde, et puis comme vicaire général du diocèse aux côtés de Mgr Mathieu, pour réévangéliser la jeunesse à travers les patronages et l'action catholique de l'époque, la JAC notamment. Voilà. Donc ce sont des tableaux très vivants. Hein. Parfois, il y a des scènes de pathétiques, des scènes de tristesse, certes, mais dans l'ensemble, les tableaux sont vivants et le plus souvent joyeux, puisque beaucoup d'enfants participent à ce spectacle, des jeunes et des adultes. En cela, le spectacle est vraiment fédérateur et je m'en réjouis beaucoup. Ce que je pourrais rajouter, c'est que ça n'est pas seulement une conviction personnelle, mais c'est aussi notre foi catholique qui attache beaucoup d'importance au culte des saints. Alors je ne sais pas si on peut qualifier l'abbé Borde de saint ou même de martyr. Probablement, chacun a sa propre conviction, mais pour ma part, je pense que l'abbé Borde fut un saint prêtre, et donc la vie des saints est probablement l'un des meilleurs chemins pour aller vers le Christ. Ce sont des exemples vivants qui nous permettent non seulement de connaître le Christ, hein, c'est l'incarnation même du Christ, hein, nous sommes des... On parle du prêtre alter Christus, c'est un autre Christ, mais le chrétien est un autre Christ. C'est celui qui vit de la vie même de Dieu et qui cherche à imprégner son quotidien et toutes ses actions dans ses relations de la bonne odeur du Christ, de la bonne odeur de l'Évangile. Alors, irons-nous jusqu'à une béatification de l'abbé Borde? Je n'en sais strictement rien. Pourquoi pas? Peut-être que le spectacle donnera un peu d'élan dans ce sens. En tout cas, ce que nous souhaitons, nous, au niveau de la paroisse Notre-Dame de Chalosse, c'est vraiment mettre en lumière la personne et la vie de l'abbé Joseph Borde, qui peut, je crois, aider notre diocèse à retrouver un nouveau souffle, à la fois pour les œuvres de jeunesse. Il y a encore aujourd'hui des patronages dans notre département des Landes. Donc des patronages, ça veut dire qui ont une vocation chrétienne. Donc peut-être que la figure de l'abbé Borde pourrait aider à retrouver un nouveau souffle et puis susciter des vocations de prêtre. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de modèles et l'abbé Borde est vraiment, je le crois profondément, un excellent modèle pour notre jeunesse, pour ces jeunes qui veulent donner leur vie au Christ, qui veulent vraiment s'engager pour que l'Évangile soit connu. Que puis-je ajouter? Eh bien que ce spectacle, par la diversité de ses tableaux, peut toucher, je pense, à des personnes très diverses, pas forcément des personnes chrétiennes. Nous avons d'ailleurs dans notre spectacle des figurants qui sont pas forcément très proches de la vie de l'Église. L'abbé Borde peut toucher quelqu'un qui est sensible à tout le côté militaire, le côté patriotique, les œuvres de jeunesse, la vie paroissiale. Donc voilà, il peut fédérer, toucher des personnes aux aspirations diverses. Et pour conclure, si je puis me permettre de faire cette comparaison, enfin plutôt de me référer à une parole de saint Paul qui comparait les chrétiens à des combattants. Hein. Il faut resituer aussi dans le contexte de l'époque, avec les chrétiens qui étaient martyrisés dans les arènes. Et saint Paul disait que les chrétiens sont d'abord des combattants. Ils combattent pour la vérité, pour le bien, pour le bien des personnes. Hein. Et cette vérité porte un nom, c'est le Christ. Il le dit lui-même, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est l'évangile de saint Jean. Donc l'abbé Borde a voulu donner sa vie. Il est allé au combat, il est mort au combat. Toute sa vie a été un combat pour le bien, pour la vérité, pour que Jésus-Christ soit connu et aimé. C'est tellement important, me semble-t-il, dans ce monde relativiste. Et c'est pourquoi je souhaite que ce spectacle d'évangélisation permette à chacun. Et d'ailleurs, nous allons le donner le 6 avril, c'est-à-dire une semaine avant d'entrer dans la grande semaine sainte. Eh bien, je pense que ce spectacle nous aidera à vivre pleinement ce qu'est la Pâque, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Christ. Si vous permettez, je termine en vous lisant la prière qui a été écrite par l'équipe spirituelle, parce qu'il y a des équipes techniques, comme je le disais, des équipes de costumes, d'acteurs. Et notre équipe spirituelle a rédigé une très belle prière. Alors, elle a rédigé également des intentions de prière universelle qui sont lues chaque dimanche sur notre paroisse. Mais je vous lis cette petite prière qui se trouve au dos des flyers que nous avons distribués. Seigneur, tu as mis sur notre route des témoins pour nous guider sur ton chemin. L'abbé Joseph Borde, par l'exemple de sa vie, nous montre comment comprendre et mieux vivre ton évangile. Que le beau projet que nous portons tous ensemble, petits et grands, nous y aide aussi. Qu'il fasse grandir la foi, la vie et l'amour vrai dans nos cœurs et dans nos paroisses. Amen. Alors à très bientôt, nous serons très heureux de vous accueillir le 6 avril prochain à l'espace Henri Emmanueli à Mugron pour les séances de 17h ou de 21h selon votre choix. À très bientôt et merci.
Merci Père Jetin et puis ben, un grand coup de chapeau et puis merci pour cette belle énergie qu'a manifestée votre paroisse. Thank you.